Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir, VMDN en direct du salon Livre Paris 2018 au parc des expositions de la Porte de Versailles. Nous avons planté notre studio au pavillon Lettres d'Afrique qui nous accueille pour cette édition qui met à l'honneur les lettres russes dans un contexte politique un peu particulier, un peu compliqué, comme vous le savez depuis plusieurs jours maintenant, puisque vous écoutez RFI. On va en parler dans un instant avec nos invités, Zahra Prilepine et Guzel Yarina, deux écrivains russes dont les œuvres, les univers, les engagements et les styles sont extrêmement différents. Le salon du Livre Paris 2018, c'est jusqu'à lundi. Et vous m'en direz des nouvelles.
J'aime bien pour découvrir de nouvelles histoires.
Ça sort du quotidien, ça fait rêver, ça fait voyager.
Le pouvoir de l'imagination.
C'est une évasion.
J'aime lire parce que j'avais pas la télé quand j'étais petite. C'était le seul moyen que j'avais de découvrir des histoires.
Quand on lit, c'est nous qui nous imaginons l'histoire, ça que j'aime.
Le livre, il n'y a pas d'image. On peut vraiment imaginer tout ce qu'on veut.
Quand je lis, je suis actif et non pas passif. C'est moi qui choisis où je place ma respiration, où je place les virgules.
C'est mon imagination à moi. Je me crée mon propre monde.
On lit des histoires qui sûrement nous arriveraient jamais dans notre vie quotidienne.
C'est quand je suis transporté par l'histoire qui est racontée.
J'arrive à m'imaginer absolument tous les détails, presque mieux qu'un film.
La passion de la lecture, c'est pas quelque chose de volontaire. C'est quelque chose qui se crée dès l'enfance.
C'est un moment qu'on prend pour soi et qu'on prend qu'avec soi-même et c'est important de le faire.
Pour moi, lire, c'est la vie. Si on sait pas lire, on sait rien faire. Si on sait pas écrire, on sait rien faire.
Bonjour, Zahra Prilepine. Merci d'être là. Avant de parler du Donbass, quelques mots sur l'atmosphère un peu particulière qui pèse, je le disais, sur la présence russe ici au salon. Hier soir, lors de l'inauguration, le président Macron a boycotté le pavillon officiel en raison de cette incroyable affaire d'ex-espions empoisonnés à Londres. Une affaire qui a tendu à nouveau les relations entre les Occidentaux, les Européens singulièrement, et la Russie. Ce matin, le journal français Le Parisien titrait « La guerre froide n'est pas finie ». Est-ce que vous êtes d'accord?
Добрый день и спасибо, что пришли к нам поговорить о вашей книге, в том числе «Письма с Донбасса». Сейчас этот салон проходит в атмосфере достаточно, так скажем, сложной для России из-за последних новостей, как вы знаете, вот из-за того дела с отравлением в Лондоне. Вчера президент Макрон пробойкотировал российский стенд, и сегодня французская газета «Паризье» написала, что холодная война не закончена. Как вы считаете, так ли это?
Холодная война не закончена, но я не считаю, что у Франции есть какие-то основания, чтобы в ней участвовать.
La guerre froide n'est effectivement pas finie, mais je ne crois pas que la France ait quelques raisons qui soient d'y participer.
Alors dans votre livre, vous vous insurgez contre le regard que portent les Occidentaux sur la Russie, notamment justement à travers l'exemple du conflit au Donbass. Qu'est-ce que vous reprochez exactement aux Européens?
Ну, вы говорите, что вам не нравится тот взгляд, так скажем, которым на Западе смотрят на Россию, в частности, взгляд на конфликт в Донбассе. Что именно вам в этом не нравится?
Мне не нравится, что представлена только одна точка зрения, и что Европа не хочет элементарно соблюдать, а предложить Украине соблюсти демократические нормы. Давайте вместе проведем совместный русско-итальянско-французско-немецкий референдум на Украине, и все поймем, за что выбирает большинство. И все, и все вопросы будут сняты. Почему бы не так?
Ce que je reproche, c'est l'unique point de vue qui est offerte et aussi le fait que la France ne voudrait pas inviter l'Ukraine à respecter les normes démocratiques, par exemple, de faire dérouler un référendum international, donc avec des observateurs russes, ukrainiens, français, italiens, allemands, pour voir finalement ce que la majorité ukrainienne choisit en effet.
Alors vous publiez donc cet ouvrage « Ceux du Donbass, chronique d'une guerre en cours », ouvrage traduit du russe par Michel Darcin et paru en France aux éditions des Sirtes. Alors c'est un regard de l'intérieur sur un conflit qui dure depuis le printemps 2014. Vous n'êtes pas un observateur neutre, vous vous êtes engagé vous-même aux côtés des rebelles du Donbass, donc pour être tout à fait clair, dans le camp pro-russe. Pourquoi est-ce que vous avez rallié cette cause, Zahra Prilepine?
И вот вы представляете свою книгу, которая написана о войне в Донбассе и представлена здесь издательством «Сирт». Вы этот конфликт, который тянется с 2014 года, наблюдали не со стороны. Вы воевали на стороне ДНР, можно сказать, на прорусской стороне. Что вас заставило самому вступить в этот конфликт?
Я не вижу никакого отличия жителей Донбасса от жителей города Рязани или города Нижний Новгород, где я живу, или от города Москва. Это такие же люди, которые живут в той же самой культурной матрице.
Alors, je ne vois pas de différence entre les habitants du Donbass et les habitants de la ville russe de Ryazan, par exemple, de Nijni Novgorod, donc où j'habite, ou de ceux de Moscou. Ce sont les gens comme eux qui vivent dans la même matrice culturelle.
Mais vous-même, vous avez pris les armes, vous êtes aussi un combattant, vous êtes allé sur le front, vous avez pris part à la guerre en Tchétchénie, vous en avez parlé en particulier dans le roman Pathologie, également publié aux éditions des Sirtes. Est-ce que le rôle d'un écrivain, Zara Prilépine, c'est d'être au front au sens propre? La plume ne suffit pas, il faut aussi prendre les armes?
Ну вот вы сами воевали, да, до этого, до того, как вы пошли воевать за ДНР, вы воевали в Чечне, вы про это говорите в вашей книге «Патология». Вы считаете, что писатель действительно должен быть в самом сердце событий в конкретном смысле слова, то есть пера уже не хватает, нужно браться за автомат?
Нет, ну просто у меня первая профессия военная, поэтому мне не ну то есть для меня это нормально. А так писатель может чем угодно заниматься, сидеть на рыбалке, летать на самолете или быть на войне. Это вопрос личного выбора. Но мне пример Ромена Гари, Экзюпери и Аполлинера, конечно, ближе.
Tout simplement, je suis militaire de mon métier et c'est pour ça que j'y ai participé. Sinon, l'écrivain peut faire ce qu'il veut, il peut aller à la pêche, il peut prendre l'avion, il peut aller en guerre. C'est le choix personnel de chacun. Mais moi, mon choix se rapproche de celui de Saint-Exupéry, de Romain Gary, et d'Apollinaire.
Mais quelle est l'arme la plus forte ? Une arme à feu ou la plume ?
Какое оружие сильнее, автомат или ручка и перо?
Ну, писатель куда более серьезный персонаж. Один писатель гораздо больше имеет воздействие, в смысле, если на перспективу. Долгое воздействие у писателя, конечно.
Pour la perspective, c'est quand même l'écrivain qui a plus de l'influence.
Но иногда просто нет времени работать на перспективу, нужно реагировать немедленно.
Mais parfois, tout simplement, vous n'avez pas le temps pour travailler la perspective, vous devez riposter tout de suite.
Под дорог от зорниц грозы седлают коней. Но над землей тихо льется покой монастырей. А поверх седых облаков синь соколиная высь. Здесь под покровом
on s'appelle Le ciel des Slaves, musique de Constantin Kintchev, un chanteur russe patriotique. Et au détour d'une page de votre livre, Zara Prilépine, vous citez le clip de cette chanson parce que l'un des héros de votre livre adore ce clip, ce qui vous surprend hein, parce que vous ne vous attendiez pas à ce qu'il apprécie le rock. Cet homme, c'est Alexandre Zaratchenko, l'actuel Premier ministre et président de la République populaire de Donetsk. Alors c'est un homme plutôt rare et même très rare dans les médias. Est-ce que c'est un personnage romanesque?
Вот вы писали так, про эту группу, про эту песню, поскольку ее любит Александр Захарченко, что вас, собственно, удивило. Александр Захарченко, который является президентом ДНР, он достаточно немедийная персона. Вот что вы можете про него сказать?
Очень редкий тип в современной мировой политике. Человек, который ненавидит политез, политическое лукавство, фарисейство. Честный, сильный и, по-моему, единственный из президентов, который реально воюющий, и офицер еще при этом.
Alors, c'est un type très rare pour un homme politique d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui n'apprécie pas le politiquement correct, la politesse, le politiquement malin, on peut dire. C'est quelqu'un de né, de net, de droit, de fort. Et je crois que c'est le seul président aujourd'hui qui est aussi un officier dans l'armée, un officier dans l'effectif.
Mais vous parliez du politiquement correct. Pour vous, c'est vraiment ça l'ennemi?
Политическая корректность для вас это, так скажем, это вражеское понятие.
Я считаю, что в мире слишком много совершается лжи и насилия под видом приличия.
Je crois que dans le monde il y a trop de violence qui est perpétrée et trop de mensonges qui sont dits sous la couverture des apparences.
Вот сейчас в мире происходит 60 войн одновременно. Кто-нибудь признается, что он их ведет вообще?
Aujourd'hui, il y a 60 guerres qui sont menées simultanément dans ce monde. Est-ce que quelqu'un vous avouera effectivement de mener une guerre?
Donc c'est la raison pour laquelle vous admirez tant Alexandre Zaratchenko. Il a des origines cosaques et ça se sent, je crois, dans sa personnalité et dans la façon dont vous parlez de lui.
То есть именно поэтому вам нравится Захарченко. И он казак, да? То есть он из казаков. И в нем это чувствуется в его личности?
Ну, нет, он не такой, как это сказать, непрофессиональный казак. Ну, просто у него есть там, да, были предки казаки. Нет, он обычный человек моего поколения, мы с ним ровесники. Ну, то есть человек из народа.
Non, ce n'est pas un Kazakh, on peut dire professionnel, tout simplement, il avait donc des Kazakhs dans sa famille, mais sinon c'est un homme ordinaire de ma génération, c'est-à-dire c'est un homme venant du peuple.
Est-ce que vous avez eu l'impression de vivre à côté de quelqu'un qui faisait l'histoire? Est-ce que vous avez eu l'impression de vivre à côté de quelqu'un qui faisait l'histoire?
У вас было впечатление, что вы находитесь рядом с человеком, который делает историю?
Да, я сам делаю историю, да.
Oui, et moi-même, je fais l'histoire aussi.
Vous faites l'histoire ou vous la racontez? Est-ce qu'il n'y a pas justement une forme de contradiction à être à la fois observateur, acteur et peut-être une forme d'historien journaliste?
Вы делаете историю или вы ее пишете? Нет ли какого-то противоречия между тем, чтобы быть одновременно, так скажем, и действующим лицом, и наблюдателем, и хроникером?
Я 2 года не пишу книжек и 2 года не занимаюсь ни музыкой, ни писательством, ни журналистикой, поэтому нет. Я сменил профессию, я сейчас только военный и советник Захарченко.
Cela fait 2 ans que je n'ai pas écrit de livre, que je n'enregistre plus de musique, je n'écris plus rien. Donc non, effectivement, il y a cette contradiction. Et aujourd'hui, je ne suis plus un écrivain, je suis un homme militaire et le conseiller de Zakhachenko.
Et demain, est-ce que vous continuerez dans cette voie ou est-ce que vous allez redevenir écrivain? Vous avez complètement tourné la page de l'écriture?
А что будет завтра? То есть вы вернетесь к писательскому делу или вы полностью, так скажем, перелистнули эту страницу?
Нет, я думаю, вернусь, потому что война не может продолжаться бесконечно, она закончится когда-нибудь.
Non, je crois que je vais revenir à la plume parce que la guerre ne continuera pas sans fin, elle doit se terminer à un moment ou l'autre.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
VMDN avec Zara Prilépine qui publie Ceux du Donbass, chronique d'une guerre en cours aux éditions des Sirtes. Alors la deuxième partie du livre s'intitule Zara Prilépine, l'heure Che de Zarar. Pourtant vous notez dans le livre que les Che Guevara ne poussent pas dans ces climats, c'est votre phrase, donc dans les climats froids de la Russie. Alors pourquoi rapprocher Zakharchenko de Che Guevara?
Но вы в книге называете Захарченко как, то есть, Че Гевары, и в то же время вы говорите, что в этом климате Че Гевары не растут. Почему же вы, так скажем, проводите параллель между этими двумя личностями?
Я просто считаю, что современному миру нужны контркультурные герои, они в них нуждаются.
Je crois tout simplement que le monde d'aujourd'hui a besoin des héros contre-culturels qui vont à l'encontre de la culture, ils en ont besoin.
Но, конечно же, экономическая и политическая система, при которой появился Че Гевара и при которой появился Захарченко, они очень отличаются.
Mais bien sûr que les systèmes politiques et économiques, donc qui, enfin le système qui a fait naître Che Guevara et celui qui a fait naître Захарченко, ils sont tout à fait différents.
Alors pour vous...
Я не очень даже представляю, что в нынешней системе медийной, радийной, телевизионной, общемировой вообще может появиться какой-то контркультурный герой, которого будут носить на майках в самых разных странах, потому что это просто не пробьется сквозь медиамашину.
C'est difficile d'imaginer aujourd'hui, avec tous les médias qui nous entourent, toute la télévision, etc., naître un héros contre-culturel que tout le monde va porter sur les t-shirts qu'on porte Che Guevara. Ce héros, tout simplement, il ne pourra pas, il ne pourra pas résister à la machine des médias.
Alors on croise également dans vos pages d'autres combattants comme Arsène Pavlov, hein, celui qu'on a surnommé Motorola, mais il y a aussi tout un chapitre de ces chroniques consacrées aux femmes du Donbass. Pourquoi leur faire autant de place?
Ну, у вас на страницах книги встречаются и другие, так скажем, из тех, кто сражался за ДНР, как Моторола, но целая глава у вас посвящена женщинам Донбасса. Почему вы им уделяете такое место?
Мне кажется, современный мир больше женщинам вообще доверяет, чем мужчинам.
Je crois que le monde moderne fait plus confiance aux femmes en général qu'aux hommes.
Mais les femmes, elles sont à l'arrière.
Ну, а женщины там, где их место, так скажем, сзади?
Ну, не, где угодно. И они впереди, они могут быть военные, они могут быть медики, они могут быть военкоры. Там женщины везде. Там mm-hmm. Это очень женская история.
Partout, les femmes peuvent aussi bien être sur le devant en tant que militaire, en tant que donc personnel médical, en tant que correspondante de guerre. Il y a beaucoup de femmes là-bas. C'est vraiment une histoire de femmes.
Alors, parmi les femmes que vous citez, il y en a une qui s'appelle Anna Dolgareva, une poétesse d'origine ukrainienne. Vous citez dans le livre quelques lignes de ses poèmes en expliquant, et c'est vous qui l'écrivez, hein, que ses poèmes à l'intérieur de votre récit sont plus importants que tout le reste. Pourquoi ?
И вот вы рассказываете там о поэтессе Анне Долгоревой, вы цитируете ее стихи, вы говорите, что эти стихи, в принципе, важнее, чем все остальное, что написано.
Мне кажется, что для поэзии лживые слова не подходят. И если бы у нас была на нашей стране была бы неправда, такие прекрасные стихи не были бы сочинены.
Je crois que des mots de mensonge ne peuvent pas être utilisés en poésie. Et si le bien n'était pas de notre côté, on n'aurait pas pu écrire des poèmes aussi merveilleux.
Oui, vous ajoutez quelques lignes après, je vous cite encore. La poésie, j'en nourris l'espoir naïf, est l'un des meilleurs avocats devant n'importe quel tribunal.
И вы там же говорите, что поэзия – это один из лучших адвокатов в любом суде.
Я думаю, это так, да, и не только русская история, но и французская история тому доказательство.
Je crois que c'est le cas, et ce n'est pas seulement l'histoire russe, mais l'histoire française qui le prouve.
Народ всегда помнит то, о чем сочинена песня. И песня, она оправдывает все, что угодно. Если есть песня об этом, если есть стихи, значит, там была правда.
Le peuple se souvient toujours des choses desquelles on a écrit des chansons. Et donc, si la chanson survit, c'est qu'il y avait, c'est qu'elle était vraie.
Et la littérature, c'est comme la poésie, c'est aussi une belle forme de plaidoirie?
Ну, а литература это так же как поэзия, это получается тоже такая своеобразная адвокатская речь?
Ну, поэзия это высшая точка литературы, это концентрированная литература, это выше.
La poésie, c'est le point suprême de la littérature. C'est la littérature concentrée, c'est son sommet.
Вот в России, например, нет никакой литературы и поэзии о 91-м году, распаде Советского Союза, потому что это зло и оно не оправдано.
En Russie, par exemple, il n'y a aucune littérature, il n'y a aucune poésie écrite sur l'effondrement de l'Union soviétique.
Et pour vous, cela signifie quoi?
И что это для вас означает?
Это означает, что это не является национальной памятью, это не является радостью для народа, это является тем, что хочется забыть.
Cela veut dire que cela n'entre pas dans la mémoire nationale, ce n'est pas de la joie pour le peuple, c'est quelque chose que le peuple veut oublier.
Vous allez voter dimanche?
Вы голосовать пойдете в воскресенье?
Я за все время демократии не голосовал ни разу, ни за кого.
Je n'ai jamais voté de tout le temps de la démocratie.
Et votre vision de l'avenir de la Russie, elle est plutôt positive ou plutôt craintive?
Ну, а ваше видение будущего России, вы его видите скорее оптимистично или с опасениями?
Я очень доволен жить в своем времени.
Je suis très content de vivre dans le temps où je vis.
Merci beaucoup, Zara Prelevine, d'être passé nous voir dans VMDN sur RFI. Je rappelle que votre livre, Ceux du Donbass, chronique d'une guerre en cours, est paru aux éditions des CIRT. On va marquer une courte pause pour le flash d'information. On va se retrouver juste après avec notre seconde invitée, Gouzel Yarina. Elle publie un roman, cette fois-ci, un roman intitulé Zouleira ouvre les yeux. C'est aux éditions Noir sur Blanc et vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet.
VMDN en direct du Salon du Livre Paris 2018.
Un bon livre, c'est d'abord une histoire.
Quelque chose qui va me passionner.
C'est un livre que je vais prendre le matin, sur lequel je vais passer ma journée, où j'aurais pas bougé de mon lit, je l'aurais refermé le soir et je l'aurais terminé.
Un bon livre est un livre qui laisse des traces, auxquelles on repense même longtemps après.
C'est un livre qui va nous trotter dans la tête pendant un moment derrière, auquel on va repenser sur plusieurs mois, plusieurs années, pourquoi pas.
Un livre, c'est une histoire qui vous accroche tout de suite.
Pour moi, un bon livre, c'est une histoire prenante.
Racontez-moi une histoire, embarquez-moi dans un imaginaire, dans un univers dans lequel je vais y croire.
Un livre qui me fait voyager, qui me fait oublier mon quotidien et qui me permet de me changer les idées quand ça va pas bien ou autre chose.
Ça va du roman, de la beauté de l'écriture jusqu'à la beauté du livre photo.
Un roman policier, moi j'aime bien, parce qu'il y a de l'action.
J'aime bien essayer de comprendre comment la société fonctionne, et donc c'est un peu des ouvrages de sociologie, parfois de politique.
Pour moi, un bon livre, c'est un livre qui permet une réflexion personnelle.
C'est un livre qui nous donne envie d'en lire un autre.
RFI a planté son studio dans le pavillon des Lettres d'Afrique, ici, au parc des expositions de la Porte de Versailles. Mais c'est en Russie que nous vous emmenons aujourd'hui. Et après Zara Prilépine, nous accueillons notre seconde invitée. Bonjour, Gouzel Yarina. Merci de nous rejoindre. Vous êtes l'auteur de Zouleïra ouvre les yeux, un premier roman paru en Russie en 2015. Un best-seller en Russie qui a été traduit en une vingtaine de langues et qui vient de sortir en France aux éditions Noir sur Blanc dans une traduction de Maud Babillard. Alors vous êtes russe sans aucun doute, mais vous êtes aussi tatar. Peut-être d'ailleurs plus tatar que russe. Est-ce que je me trompe?
Добрый день. Bonjour. Очень приятно быть здесь.
Je suis ravie d'être présente.
Я татарка по национальности.
Effectivement, je suis tatar.
Я родилась и выросла в Казани, столице Татарстана.
Je suis née et j'ai grandi à Kazan, c'est la capitale du Татарстан.
Город на Волге.
C'est une ville sur la Volga.
Маленькая справка. Всего в мире 12 миллионов татар.
Il y a 12 millions de Tatars dans le monde.
5 из них живет в России и 2
в Татарстане. 5 миллионов habitent en Russie et 2 millions au Татарстан.
Et мне часто задают такой вопрос, кто вы?
Souvent, on me pose la question, qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes écrivain tatar ou russe?
Потому что роман написан о татарской
женщине. Parce que le roman est écrit sur... C'est une histoire d'une femme tatar, mais en russe.
Я предпочитаю отвечать всегда, что я
que je suis une écrivaine qui est née de Kazan.
Et donc vous êtes une romancière biculturelle?
У вас две культуры.
Совершенно верно.
Effectivement.
Тот город, где я выросла,
la ville où j'ai grandi, c'est une ville où il y a un mosquée et une église orthodoxe sur des rues voisines. Où il y a à côté où habitent les Russes et les Tatars. Et 30% des mariages mixtes dans notre ville.
Donc
Kazan, c'est beaucoup plus qu'une ville russe ou tatar. C'est quelque chose de coexistence paisible des peuples.
Alors votre roman commence précisément au Tatarstan, pas très très loin de la ville de Kazan, alors pas dans la ville mais dans la campagne, puisque votre héroïne qui s'appelle donc Zouleïra est une paysanne musulmane. Est-ce que sa foi est réellement un élément très important de sa personnalité?
Она не только мусульманка,
elle n'est pas uniquement musulmane, mais elle est aussi païenne.
Потому что вот такое сочетание,
parce que cette fusion entre la croyance de croire en Allah et aussi aux esprits de la forêt, de la maison, c'est assez caractéristique pour les Tatars.
Zouleïra живет в таком мире, где она
vit dans un monde où elle communique plutôt avec Dieu et les esprits plutôt qu'avec les gens. Progressivement, peu à peu, elle trouve des amis
et elle
commence à communiquer beaucoup plus avec des gens, des personnes. Pour moi, ce qui était très important, c'est de montrer cet isolement de mon personnage du monde des gens, du monde humain, et comment progressivement il s'en sort de ce monde patriarcat fermé, de ce passé, qu'elle sort dans le présent, dans le quotidien.
Zouleïra a été mariée à 15 ans à Murtaza. Murtaza, c'est un koulak, c'est-à-dire un fermier qui possède sa terre, qui a des animaux, qui a des outils, qui emploie des salariés agricoles. Et ça, Gouzel Yarina, dans le début de l'ère soviétique, c'est absolument intolérable pour les soviets. Hein. Pour les communistes, les koulaks sont des exploiteurs, on peut dire ça comme ça?
Effectivement, la lutte contre les kulaks a été commencée encore par Lénine en 1918, mais l'apogée de cette lutte a eu dans les années 30, en janvier de l'année 30, il y a eu une ordonnance du comité central du parti pour la liquidation des kulaks en tant que classe sociale. Et effectivement, c'était une période, une journée noire, une période noire dans l'histoire soviétique, parce que beaucoup de paysans, et souvent c'était pas des paysans très riches, c'était des paysans tout à fait ordinaires et même pauvres, donc on passait par ce qu'on appelle des kulakisaisons, donc on leur prend, elles perdent leur terre, elles perdent tout ce qu'ils ont et ils sont renvoyés dans des parties éloignées du pays. Et les raisons pour lesquelles ils ont subi ces mesures étaient assez larges. Donc on pouvait considérer de kulak n'importe qui, n'importe quelle famille. Et c'était très confortable. Puisque en même temps, il y a eu des chiffres, combien de kulak il faut, c'était un plan, combien de kulak il faut trouver pour chaque quartier, pour chaque région, combien de kulak il fallait trouver. 5% des paysans russes ont subi ça.
Comment est-ce que vous l'avez composé, ce personnage de Zuleïra ? Vous êtes parti d'un destin réel ou vous l'avez complètement imaginé ?
Ce personnage a été inspiré par la vie de ma grand-mère, parce qu'elle-même, elle a passé ce chemin et elle a subi des kulakisations et exil en Sibérie pendant 16 ans. Mais en même temps, pour moi, ce n'était pas intéressant de décrire une histoire d'un petit enfant né en Sibérie. Pour moi, c'est beaucoup plus intéressant de décrire l'histoire d'une femme adulte qui obtient une deuxième chance et a la possibilité de vivre une deuxième vie et de réaliser cette deuxième chance. C'est important pour moi de voir comment elle change et de faire ces deux passages entre le passé et le présent. Et comment quel impact a ça sur sa personnalité et comment elle change elle-même.
Oui, parce qu'effectivement, il y a tout un long voyage que vous racontez dans le roman à l'issue d'un voyage en train avec toute une bande de prisonniers. Zuleïra va se retrouver dans une colonie perdue au milieu de la neige en Sibérie, hein, plus précisément de la région de Krasnoïarsk, le long de la rivière Angara. C'est donc au cœur du goulag que vous nous emmenez. Alors pour beaucoup de lecteurs francophones, Gouzaliarina, le goulag c'est celui de Solzhenitsyn ou de Tchalamov, mais en fait c'est beaucoup plus large que ça. Le goulag n'était pas réservé qu'aux intellectuels ou qu'aux personnes réellement anticommunistes.
J'aimerais dire quelques mots sur son chemin. Comment Zuleïra voyage ? Ce voyage qu'on voit dans le roman, c'est pas le voyage géographique. Elle ne traverse pas uniquement des kilomètres. C'est aussi le voyage mental, spirituel. Parce que sur ce chemin, elle croit ce qu'elle n'a pas eu dans sa vie précédente. Ces nouvelles les éléments de sa vie, sa nouvelle rencontre, la changent. Pour la première fois, elle commence à parler avec des gens, réellement. Elle commence à parler en russe, donc elle change de langue. Pour la première fois, elle garde l'enfant, parce que 4 filles précédentes sont mortes toutes petites. Et pour la première fois, elle rencontre l'homme qu'elle aime et elle lui répond par l'amour. Donc tous ces changements extérieurs la changent intérieurement, de l'intérieur. En ce qui concerne le goulag, j'aimerais préciser, on n'envoie pas au camp, elle n'est pas envoyée au camp. Elle est envoyée dans un lieu éloigné, isolé, où il n'y a rien, mais il y a une sorte d'exil. Ce sont des exilés qui construisent leur propre vie, une nouvelle vie, un nouveau village, un village d'exilés. Donc un village des gens qui sont exilés là-bas. Par la suite, ces villages faisaient partie du goulag, mais initialement, c'était une forme d'exil. Et les conditions de vie étaient un peu différentes. Donc ce n'était pas proprement dit le camp.
Mais c'était quand même un exil encadré. avec des soldats du communisme, avec des bolcheviks. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de voir la relation que vos personnages ont avec leurs encadrants, pour le coup. Et on se rend compte combien il y a un écart entre ce que les autorités russes ont voulu planifier, ont voulu organiser de façon extrêmement rigide, et puis la part d'humain qui réside quand même, malgré tout, dans ces personnages qui servent la cause soviétique.
Да, совершенно верно. Тот человек, который раскулачивает Зулиху, убивает ее.
La personne qui a déglocu la Kaysera et qui l'a envoyé, qui surveille ce train, par la suite, il reste dans le village.
Contraint et forcé, d'ailleurs.
Вынужден, совершенно верно, но он это делает.
Effectivement, mais il l'a fait quand même. Il est cet officier russe.
В том же самом положении, что русский.
Il se retrouve dans la même position que des paysans de la Colésie. Il vit la même vie. Et la question, où est la frontière? Est-ce qu'il y a une frontière? Est-ce qu'ils sont de deux côtés de la frontière, de barricades, ou ils sont du même côté? Parce que ce personnage, l'officier, d'un côté, il doit les surveiller il doit les tuer s'ils essayent de s'enfuir, mais de l'autre côté il doit prendre soin de ces gens, il doit les soigner, trouver des médicaments, il doit les nourrir, et par la suite, quand il se retrouve face à face avec ces gens à un hiver, il passe le premier hiver, il doit tuer les animaux et trouver de la nourriture. Donc il est en quelque sorte responsable de ces gens. Et il devient en quelque sorte le père de ces gens-là. Donc à la fin du roman, Ignatov comprend qu'ils sont du même côté. Et de l'autre côté, c'est la mort.
Alors c'est intéressant que vous parliez de paternité, parce qu'il y a aussi dans ce roman une histoire de maternité cette fois-ci. Parce que au cours du voyage en train, votre héroïne, Zuleïra, va rencontrer un gynécologue, un personnage extrêmement romanesque qui s'appelle Wolf Karlovitch, et il va lui révéler qu'elle est enceinte, tout simplement. Nous sommes page 185 de votre roman.
Enceinte ? Oui, elle avait tout le temps faim, mais on les nourrissait si peu. Oui, son ventre était devenu un peu lourd récemment, mais elle s'était dit que c'était l'âge, et les joues rouges avaient cessé, mais elle croyait que ça venait de tous les chocs qu'elle avait subis. Mais qu'elle soit enceinte, bien joué, Murtaza. Tu as trompé la mort. Tu reposes depuis longtemps dans ta tombe, mais ta semence est vivante. Elle grandit dans mon ventre. Elle a déjà accompli la moitié du cycle. Encore une fille ? Bien sûr, qui d'autre ? Comment disait la goule déjà ? Tu ne sais mettre au monde que des filles. Non, elle disait autrement. Tu n'as su mettre au monde que des filles, et encore, aucune n'a survécu. Faut-il croire que celle-ci aussi ? Oui, bien sûr, celle-ci aussi quittera ce monde à peine né. La rougeur du nouveau-né n'aura pas le temps de disparaître de sa peau tendre. Ses petits yeux n'auront pas le temps de s'emplir de compréhension. Sa bouche n'aura pas le temps d'esquisser son premier sourire. Zuleïka regarde l'obscurité du plafond. Ses pensées défilent au rythme des chaos du train. Derrière le mur de planches, c'est la nuit tiède d'un mois de mai. Le wagon à demi-vide, léger, tangue plus fort que d'habitude, largement comme un berceau. Tout le monde s'est déjà endormi, et la gentille Isabella, qui a passé la moitié de la nuit à lui caresser la main, et l'étrange professeur, qui l'a longuement regardé de ses yeux lumineux, joyeux. Si elle pouvait s'endormir à son tour, mais le sommeil ne vient pas.
Vous, Aliarina, est-ce que vous avez voulu écrire un roman féminin ?
Конечно, история Зулейхи,
история освобождения женщины, c'est l'histoire de libération de la femme, de développement de la femme.
Это соответствует исторической правде.
Ça correspond à la réalité historique, puisque les femmes soviétiques étaient les troisièmes à obtenir le droit de voter en troisième après la Suède et la Nouvelle-Zélande. L'émancipation des femmes russes se progressait très rapidement dans ces premières années soviétiques. Mais là, Tatarstan, c'est une république orientale. Et ça porte aussi, donc, c'est l'émancipation. Même dans le titre du roman, il y a un sens. C'est le titre qui ouvre le roman, c'est la première sentence du roman. Il est répété quatre fois et chaque fois, c'est le nouveau entourage. Pas les mêmes couleurs. Au début, c'est le noir et à la fin, c'est la lumière écrasante.
Oui, c'est donc très clairement un roman d'apprentissage. Un mot pour évoquer peut-être quand même le personnage de Wolf Karlovitch Leibe, je ne sais pas si je prononce bien son nom. Ce personnage, je disais, il est extrêmement romanesque, il est un petit peu fou quand même, on ne va pas tout révéler du livre, mais c'est quand même un sacré personnage. Pourquoi avait-il besoin d'être là? Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de seconder, en quelque sorte, le personnage de Zuleyra?
Pour moi, c'était important de montrer dans ce roman et de parler de trois cultures qui m'ont formée. Donc, c'est la culture russe, c'est la culture tatare et la culture allemande. Parce que dans ma formation, je suis enseignante d'allemand, le maître d'allemand. J'ai fait des études en Allemagne, donc c'est un sujet qui me parle. C'est pour ça que c'était important pour moi d'avoir ce personnage allemand et ce médecin. Dans son prénom, j'ai caché une sorte de suggestion et une sorte de respect au premier doyen du recteur de Kazan, qui est venu à Kazan au début du 19e siècle et est devenu le président de l'université qui a été ouvert en 1804. En ce qui concerne cette lignée médicale, je suis reconnaissante à ma belle-mère qui m'a permis de le faire. En fait, elle est sage-femme, gynécologue, elle a beaucoup d'expérience. Par exemple, les descriptions de l'accouchement, parce qu'elle accouche, il y a beaucoup de détails, elle m'a décrit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut le médecin. Tout a été écrit avec l'aide des conseils professionnels de la part de ma belle-mère. Elle m'a décrit la situation du point de vue de sage-femme et elle m'a décrit cette situation qui portait des risques pour la mère et pour l'enfant. Mais en même temps, il était possible de trouver la solution. Donc elle a décrit ce que ressent la mère, ce qui fait le médecin et ces récits qu'elle m'a fait, donc un récit professionnel, j'ai décrit dans mon roman. Donc nous avons le médecin Leiba. Donc sa manière d'agir, c'est la manière d'agir de ma belle-mère. Et après la sortie du livre, ses anciens collègues l'ont appelé pour dire « on reconnaît ta manière de faire ». Parce qu'en fait, il y a une sorte d'écriture des sages-femmes, manière de faire. Qu'est-ce qui fait le médecin dans telle ou telle situation ?
По дороге, сшибая столбы, непослушные ноги, ему говорят, мы тебя приведем, но ни шагу назад. Мальчик желает быть богом, но это так трудно и грустно, и так одиноко, он мне говорил это пьяный, и глядя в глаза. Денег ноль! Возмужала, еще отрастил себе жало и стала бежать тяжелее. Мимо дождей, фонарей, мимо снов и бессонниц быстрее, чтоб не опоздать и запомниться, жадно глотая улыбки людей. Денег ноль, секса ноль, музыка сдохла.
Земф Fira dans VMDN sur RFI en direct du salon Livre Paris 2018 qui met cette année la Russie à l'honneur. Avec nous la prime romancière Gouzel Yarina pour son roman Zuleïra ouvre les yeux qui vient de sortir en France aux éditions Noir sur Blanc. Alors Gouzel Yarina, vous avez une écriture très cinématographique, vous décrivez très précisément vos personnages, leurs actions, on est vraiment à leur côté au fur et à mesure que l'on tourne les pages de votre livre. Ce n'est pas très étonnant parce que j'ai lu que vous étiez d'abord scénariste de formation. Est-ce que ce roman, vous l'avez écrit comme un scénario de film?
En effet, ce roman est né comme un scénario et la structure d'un scénario elle est créée par les règles de cinématographie. J'ai été obligée de le faire parce que pendant 2 ans, j'ai fait des tentatives d'écrire un roman et après je suis partie de faire une formation cinématographique parce que je voulais savoir raconter des histoires. Et en première année, j'ai fait un scénario qui portait le même nom, je l'ai réussi pour 3 heures, et par la suite ce scénario a été transformé en œuvre littéraire. Je n'ai pas réussi à tout transférer. Évidemment, la prose et le scénario, c'est des choses très différentes, mais 70% du texte a été gardé et donc la structure est restée la même.
Alors on l'a compris, le livre ne manque pas de souffle. Beaucoup de critiques ont d'ailleurs dit qu'il s'inscrivait dans la grande tradition du roman russe, qui est plutôt une critique positive pour un premier roman. Et c'est vrai qu'il y a un côté épique, on est vraiment plein de compassion pour les personnages en général et évidemment pour le personnage de Zuleïra. Quels sont les grands écrivains russes qui vous ont nourri, Gouzel Yarina?
Je suis inspirée avant tout les classiques, donc Dostoïevski, c'est mon écrivain préféré parmi les écrivains modernes, c'est Ulitskaya. J'ai eu une chance qu'elle était parmi les premières à lire ce roman. Elle a même fait une préface, je ne savais même pas. Et quand j'ai appris, je ne pouvais même pas dormir parce que j'étais impatiente de voir son commentaire. Donc, Ludmila Ulitskaya, mais aussi Evgeny Vodalaskine. C'est un écrivain remarquable avec la maîtrise de la langue parfaite. Et chaque œuvre de Vladimir Vodolaskine, comme de Ludmila Ulitskaya, ce sont des écrivains à qui je fais confiance, des auteurs à qui je fais confiance.
Et la littérature française, est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous l'avez également partagée à travers votre propre écriture avec vos lecteurs?
Dans le roman, il y a une lignée française, on peut dire. C'est pour ça que c'était important pour moi la traduction en français. Parce qu'à part la géographie, on a mentionné, il y a aussi la géographie symbolique. Cette géographie symbolique, il y a Pétersbourg et Paris comme symbole de liberté. Et les personnages ne seront pas à Paris, mais ils parlent souvent de Paris, de la France. Il y a des mots français qui perceptent le texte. Sur la rive d'Angara, ils parlent des plats français on trouve des huîtres, meilleures huîtres à Paris. Donc cette lignée française, cette ligne de Paris, elle est présente. En ce qui concerne la littérature française, j'ai grandi avec la littérature française. Je ne me souviens plus qui a dit « Chacun de nous a deux patries, et une de ces patries est la France ». Nous sommes tous les enfants de l'Union soviétique et nous nous souvenons comment les livres étaient très importants et que nos parents amener ces livres qui étaient trouvés avec beaucoup de difficultés. Il y avait des abonnements, il fallait s'abonner. Et donc, ils mettaient ces volumes dans les bibliothèques. Ils étaient très heureux qu'ils ont réussi à obtenir Alexandre Dumas ou Jules Verne ou d'autres écrivains. Et donc, ces noms étaient autour de nous et c'était sur les étagères. Et nous avons, en quelque sorte,
Nous étions passionnés par ces livres français que nous avons pu obtenir. Antoine de Saint-Exupéry, c'est mon auteur préféré, Le Petit Prince. Pour moi, c'est une histoire qui est hors temps, qu'on peut lire à n'importe quel âge.
Merci beaucoup, Gouzelle Irina, d'être venue nous voir sur RFI dans Vous m'en direz des nouvelles en direct du Salon du Livre. Je rappelle que votre livre Zuleira ouvre les yeux est paru aux éditions Noir sur Blanc, qui fête d'ailleurs leurs 30 ans. Une petite question supplémentaire d'ailleurs, parce que quand on publie un premier roman, évidemment, on pense après au second. Vous l'avez déjà écrit, ce second roman?
Oui, je peux dire très calmement, le deuxième roman est déjà prêt, il va sortir en mai en russe à Moscou. Il est consacré au destin de l'autonomie allemande sur la Volga, en Union soviétique, en Russie. Il y avait toute une région allemande près de la Volga, et donc comment ces gens vivaient à l'époque soviétique, c'est le sujet de mon roman.
Merci encore une fois, merci également au Pavillon Lettres d'Afrique pour son accueil. D'autres émissions y passeront bien sûr jusqu'à lundi et la clôture de ce Salon du Livre de Paris 2018. Dans un instant, l'info sur RFI depuis nos studios d'ici les Moulineaux, et puis on va se retrouver lundi, nous, cette fois en direct du siège de l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, avec la secrétaire générale de l'OIF, Michaël Jean, avec l'écrivaine ivoirienne Véronique Tadjo et avec l'auteur, illustrateur, conteur et comédien togolais Gustave Akakpo. Et vous m'en direz des nouvelles.